Marché conclu, s'exclama Andreas. Ainsi, Lopez Ortega demanda à son apprenti de tenir boutique à sa place pendant le temps qu'ils allaient s'affairer dans le laboratoire. En entrant dans la petite pièce sombre, où étaient des fourneaux, un alambic, des casiers chargés d'ingrédients innombrables et deux belles paillasses de marbre, Andreas éprouva une foule d'émotions complexes et antagonistes. En premier lieu, il y avait la joie simple de retrouver, après un mois de voyage quasiment, un laboratoire. Ce lieu où il se sentait si bien, si entier. Ensuite, il y avait la douleur profonde de songer aux siens, qui avaient disparu dans les flammes à Paris. Et avec lui, Lambert et Marguerite, ses si fidèles servants. Mais aussi son Oculus Corpuscula et bien d'autres précieux objets encore. Enfin, il y avait cette vague troublante qui submergeait son âme comme il se revoyait là, en ce même endroit, 18 années plus tôt, réalisant ses premières émulsions, ses premiers juleps. Chassant les souvenirs et retrouvant rapidement les gestes qui faisaient sa grandeur, il se mit aussitôt à travailler et son regard d'emblée s'illumina. Lors, l'apothicaire Castillan ne fut point déçu d'avoir accepté la proposition du Français, car de fait il apprit beaucoup en l'observant. Andreas étant l'un des plus éminents préparateurs de son temps. Comme il voulait bien faire et impressionner son hôte, Saint-Loup choisit de réaliser un élixir, car cet esprit est en pharmacie la plus pure réalisation quintessentielle qui soit, et qu'on en tire grand secours dans la médecine. Et de tous les élixirs, il ne choisit guère le moindre, puisqu'il entreprit de confectionner un élixirium vitae, composé d'une grande diversité de drogues d'une belle qualité, le destinant à soigner moult maladies. Il serait propre, dit-on, pour l'épilepsie, pour les syncopes, pour fortifier le cœur, le cerveau et l'estomac, ou pour exciter la semence. Avec aisance, grâce à l'ordonnancement qui n'avait point changé, Saint-Loup commença par réunir tous les ingrédients qui lui étaient nécessaires, et ils étaient bien nombreux. Cinnamome, poudre de santal, racines de gingembre et de zédoria, écorce de citron, poudre d'électuaire de diambra, noix de muscade, galanga, clou de girofle, graines d'anis, fenouil, panais, herbes de basil doux, réglisse, valériane, thym, petit calamant, essence de menthe, amarante, sauge des deux vins, acanthe, romarin, buglos et borache. Tout cela, bien sûr, il le fit de mémoire, sans consulter l'antidotaire qui, d'ailleurs, n'eût point été aussi précis. Sur la paillasse, il pulvérisa grossièrement ensemble les racines, les bois, les écorces, les semences et les fruits. Ses gestes étaient précis, ceux d'un maître artisan, qui aime le matériau qu'il travaille et en connaît les vertus. Puis, dans un mortier de marbre, il en fit de même avec les feuilles et les fleurs, avant que de mettre le tout avec les poudres dans une grande cucurbite de verre. Certains de mes confrères ajoutent du basilic et de la graine de paradis, mais cela est pure stupidité car il n'apporte rien à la drogue. En outre, il ne faut surtout pas dépasser les doses de réglisse et de borache que vous m'avez vu mettre, car elles donneraient alors du flegme dans la distillation. Son hôte approuva. « Donnez-moi une eau de vie bonne et forte, » demanda Andreas à Lopez, lequel s'empressa de lui en trouver. Saint-Loup versa celle-ci sur son mélange, puis boucha bien le vaisseau. Il fit alors chauffer un peu d'eau sur un fourneau, mais point trop longtemps, et mit sa mixture dans le liquide tiède. Il convient à présent de laisser reposer dans cette eau qui, comme vous l'avez vu, ne doit être ni trop chaude ni trop froide. On peut aussi mettre le vaisseau dans du fumier, ce qui est au demeurant préférable. Mais il faut alors attendre plus longtemps, 3 ou 4 jours peut-être. Avec cette méthode-ci, nous irons bien plus vite. Andreas profita de cette pause obligée pour inspecter les ingrédients alignés dans les casiers sur les étagères autour de lui. Ici, il souleva un bocal pour le soupeser. Là, il en ouvrit un autre pour sentir son contenu. Il semblait éprouver quelque jubilation à se trouver là. Puis, soudain, sa main s'arrêta sur un petit récipient de grès. À l'intérieur, il reconnut des têtes de pavots encore vertes. Et alors il se mit à trembler. Il ferma les yeux, poussa un soupir et se détourna de cette rangée-là pour passer à la suivante, en espérant que le Castillan n'avait rien remarqué. Et alors, s'efforçant de masquer son tourment, « Si je puis me permettre, vos agarics ne sont plus bons, ils ont trop séché et ainsi ils risquent